La chronique judiciaire avec Maître Charles Quentin. Avant d'être dans le trouble, écoutez-le. Si vous l'êtes déjà, 418-542-8111.
13h22, il a survécu à une fuite de gaz à Charlevoix. Maître Quentin, bonjour.
Bonjour, live.
Salut, en studio.
Un plaisir d'être ici. La semaine passée, c'était une vision de l'apocalypse.
C'était folklorique. On rappelle aux gens qu'on a réussi à faire notre chronique judiciaire où on a essayé très fort de la faire avec vous. Vous reveniez de vacances. Faisait un bon trois semaines qu'on ne s'était pas parlé. On le fait au téléphone comme ça arrive une fois de temps en temps. Vous nous dites, oh, on est en congrès dans le coin de la Malbaie. Petit enlignement, puis au bout de deux minutes, même pas, le plan de match avait revolé parce que vous étiez évacué.
Ah oui. Je commence à vous parler au téléphone. Salut, bye-bye, tatoc, là. Hey, il y a le pompier, 6-3, 6-4, le masque sur la tête. J'ai dit, alors, monsieur, c'est une évacuation. Il y avait la axe dans les mains, la hache, la de guerre. Wow, c'est qui se passe? Je peux-tu prendre? Puis là, j'avais oublié de prendre mon argent. Puis ma carte de crédit, parce que j'ai dit, tant qu'elle est évacuée, on va aller au petit casino.
Bon, c'est à côté.
Ça s'est soldé, puis un petit peu plus tard. Mais en fin de compte, j'ai resté une nuit de plus. Là, on m'a payé une gratuité, fait que c'était bien correct.
Bon, on a déjà abordé la question concernant ce qui se passe avec les injonctions, les Autochtones, tout le kit. Mais on a parlé à Gilles Proulx lundi, qui nous a fait une leçon d'histoire incroyable sur le rapport qu'on a avec les nations autochtones. Mais au-delà de ça, ce qu'il prétend, c'est qu'il y a une justice à deux vitesses au Canada, qu'on ne traite pas les Autochtones, les Blancs de la même façon. Il y a des injonctions. Lorsque ce sera levé, ce qu'il prédit, c'est qu'il n'y aura personne d'accusé là-dedans. Il n'y aura aucun manifestant autochtone qui sera traduit en justice parce que c'est comme ça. La justice est faite à deux vitesses au Canada. Vous en pensez quoi?
Je suis totalement d'accord. Si la situation reste à peu près celle qu'elle est actuellement, qu'on ne fait que des blocus, puis ça va pas plus loin, ça va rester tel quel. Mais si on assiste à des actes criminels en direct, ça pourrait changer. Je vous dis pas qu'on n'assiste pas à des actes criminels en direct parce que, bon, bloquer une voie ferroviaire,
on défie des injonctions présentement.
Empêcher la jouissance d'un bien, selon la définition du code criminel. Maintenant, à partir du moment qu'il n'y a pas plus que ça, c'est vrai que je serais étonné qu'on accuse qui que ce soit de quelques infractions existantes dans notre bon vieux code criminel ou d'une loi réglementaire ou dans une loi provinciale ou c'est très spécial ce qui se passe actuellement. Mais effectivement, historiquement, ce qu'on en sait, est-ce qu'on a l'impression qu'on est en dette, en reddition devant les nations? C'est possible également. C'est tout ça est entremêlé avec une gouvernance qui m'apparaît un peu faible dans l'état actuel des choses. On a des difficultés d'apprendre des décisions, d'établir une stratégie. On dira ce qu'on voudra contre Donald Trump, mais amenez-le ici dans des pareilles circonstances et je vous garantis qu'il y a un plan de match à 1, 2, 3 avec un quatrième volet qui est la porte de sortie.
14h30 cet après-midi, Justin Trudeau va s'adresser à la presse. On verra qu'est-ce qu'il y aura à dire à ce moment-là, mais effectivement, la gestion est spéciale. Puis au-delà des blessés, des morts potentiels qu'il pourrait y avoir, s'il y a des affrontements, ça va laisser des traces pareilles. Juste les relations entre, entre les deux peuples.
Ça laisse des traces, puis ça crée des précédents au niveau de je vous dirais, du défi de l'autorité, de la transgression du climat en général qui devrait régner entre les nations autochtones et le peuple canadien. Donc, y a comme un drôle d'équilibre entre les deux. En fait, il n'y en a pas d'équilibre. Il y a un déséquilibre que n'est pas capable de ramener le premier ministre. Est-ce que le premier ministre s'adresse à la nation ou c'est une conférence de presse en bonne et due forme?
On dit qu'il va faire le point.
Bon, faire le point, c'est pas tout à
on
fait...
On est loin d'un dénouement. Parlons de l'affaire Salvaille. Ouais. Plaignant Donald Duguay, finalement, de toutes les dénonciations, puis on a décidé d'aller au bat avec une seule présumée victime, Donald Duguay. Ça a commencé, il démontrait un aplomb intéressant, quand même un souci du détail, une certaine force de soi pour aller décrire ce qu'il a vécu, puis que c'était pas le fun, c'était traumatisant, regroupant donc dans le bouquet harcèlement, séquestration, agression sexuelle. C'est une chose, c'est sa version. Et contre toute attente, ou presque, Salvaille arrive, décide de témoigner, puis vire ça complètement à 180 degrés en disant j'ai pas fait ces gestes-là. Pas, je les ai faits, mais je pensais qu'il voulait ou dans un contexte de flirt. C'est l'opposé total. Qu'est-ce que le juge va devoir faire?
Mais il n'y a aucune surprise dans ça, mon ami Fred. Moi, que Salvaille témoigne, aucune surprise. D'abord, les gestes reprochés. Le pire des gestes, là, ça serait la séquestration dans la salle de bain, de ce que je comprends. Là. Corrigez-moi si je me trompe. Mais à ce que j'ai compris, il y avait les culottes aux genoux, puis Salvaille.
Ouais.
Puis l'autre aurait été séquestré dans une salle de bain. Puis les deux individus ont à peu près le même gabarit. Ils ont à peu près le même âge. Parce que ce qui fait drôle dans ce dossier-là, c'est qu'à la base même, on a comme l'impression, quand c'est rapporté dans le passé au niveau médiatique, que Salvaille a 45 ans et que l'autre a 15-16 ans. Mais si on se reporte en 1993, les individus ont le même âge. Là.
Et selon Duguay, c'est même lui qui donnait le training à Éric Salvaille.
Donc, il n'y a pas de position d'autorité.
C'est pas le contraire. C'est pas...
Tu sais, ça m'apparaît du 1 contre 1, si vous me permettez.
Mais dans un cas d'agression sexuelle, ou de situation similaire, si on enlève le fait qu'Éric Salvaille est une personnalité connue, Maël Boulian, votre collègue, disait dans le show du matin cette semaine, une affaire de même, là, c'est pas pour amoindrir la patente.
Absolument.
Mais si c'était pas Éric Salvaille, on n'en parlerait pas.
Ben, complètement d'accord.
Bon.
On fait le procès de l'individu.
Mais au-delà de
ça... On fait la nouvelle avec la vedette qui est là.
Mais les gens qui nous écoutent actuellement, là... qui ne sont pas connus, mais qui vivent une situation similaire, le message que ça envoie, je trouve, c'est de dire, surtout s'il est reconnu non coupable, c'est de dire, ben, si quelqu'un vous accuse de ça, vous avez juste à dire que c'est jamais arrivé puis c'est réglé. C'est la version d'un contre la version de l'autre. C'est un peu d'aplomb, t'es réglé. Pis,
mais c'est le pain quotidien de notre droit criminel. Salvaille a eu le bénéfice d'avoir des avocats qui sont capables de se payer, etc. C'est la même chose pour tout le monde. Il a certainement été avisé en lieu... Et en place de garder le silence, de ne pas faire de déclaration, parce qu'advenant le cas qu'Éric Salvaille fait une déclaration mal avisée, c'est un dossier qui aurait pu se terminer. On l'a déjà dit sur ses ondes, ça aurait pu se terminer par exhibitionnisme, peut-être autre chose. Sauf qu'il nie. Il nie les agressions, il nie la séquestration, il nie la notion du harcèlement criminel.
Ben, en tout cas,
ce qu'il ne nie pas, ce serait des comportements inappropriés. Ce que je considère comme étant une bonne stratégie, puisque, à l'origine, quand il y a eu l'espèce de barda de toutes ces dénonciations-là du MeToo, M. Salvaille, avec un agent probablement de relations publiques, avait fait une déclaration at large, suivant laquelle il s'excusait s'il y a eu des propos inappropriés, s'il y a eu des comportements déplacés. Et il a poursuivi dans son témoignage dans la même veine. Alors que le piège étant que Éric Salvaille témoigne et qu'il nie même forme de comportement déplacé ou répréhensible à l'endroit de qui que ce soit, puisqu'il venait de faire cette déclaration générale. Il a continué en maintenant. Donc, j'ai l'impression qu'un tribunal pourrait dire, écoutez, j'ai certains éléments, j'ai certains comportements, j'ai certaines admissions de M. Salvaille, mais jamais il ne se rend jusqu'à admettre les actes en question. Que fera-t-il également avec cette forme d'alibi qui, je ne sais pas si elle a été annoncée. Un alibi, d'abord, faut que ça soit annoncé le plus tôt possible pour que la partie adverse ait l'occasion de vérifier la qualité de l'alibi en question. Alors, ce que je comprends de ce qui a été rapporté, évidemment, on n'assiste pas en direct au procès, c'est que M. Salvaille prend en note toutes ces choses, a même en note qu'en 1993, il ne travaillait pas pour Radio-Canada. Bon, il y a eu certains énoncés suivant lesquels il faisait quand même des émissions.
Oh, ouais.
Mais c'est un alibi. Bon, est-ce que la Couronne a demandé une contre-expertise, une contre-preuve? Ce que je comprends...
C'est ce qu'analyse actuellement. Puis expliquez-nous, c'est quoi une contre-preuve? Bon. Parce que là, on pense que les témoignages sont finis, puis on dit, attendez un peu, on demande du temps, on aura peut-être une contre-preuve.
Une contre-preuve, en fait, c'est un élément qui a été amené par la défense que ne pouvait pas prévoir la poursuite. Et là, on demande un délai au tribunal pour vérifier, de quelle façon on pourrait contre-attaquer cette preuve qui a été amenée, à savoir les agendas ou ces choses. Mais moi, ce que je pense, c'est que la contre-preuve, à sa face même, ne devrait pas être admissible, puisque c'est imprévisible que Salvaille travaillait oui ou non, et c'était vérifiable à Radio-Canada. Bon, maintenant, on a un document qui a été déposé, je pense, soit les agendas de 1993. Est-ce qu'on veut analyser ça pour venir contrer cette situation-là? Ça reste à voir. Mais moi, ce que je prévois, écoutez, on pas, c'est sûr qu'il y a une série d'admissions, comme je vous l'ai dit, des admissions qui sont quand même banales. Procureur de la Couronne, fort habilement, je ne sais pas, a demandé, a contre-interrogé Salvaille en lui demandant si c'était quoi pour lui une agression sexuelle, jusqu'où pouvait aller, la ligne est à quel endroit. C'était habile parce que quelqu'un plus ou moins préparé pourrait facilement mordre à cet appât et se mettre solidement dans le trouble.
La question du polygraphe, moi, m'intéresse quand même parce que Philippe Bonneville, le correspondant au Palais de justice de Montréal, nous a dit que Salvaille avait offert de passer des polygraphes. Il y en a même eu trois, mais c'est pas admissible en cours.
Puis on n'a pas eu résultat en passant.
Ça, ça m'intrigue. Là, je suis curieux.
Mais est-ce que le procureur, est-ce que vous avez l'information suivant laquelle le procureur de la Couronne aurait demandé s'il les a réussi ou pas? Est-ce qu'on a pas
cette information-là n'a pas filtré dans le média.
Mais ça.
Parce que la question se posait.
Ben, il me semble.
Et j'ai l'impression que la Couronne ne s'est pas aventurée sur ce terrain-là, puisqu'on n'en parle pas. Puis effectivement, c'est un point d'intérêt. Complètement inadmissible, le polygraphe, mais fort plausible, et non seulement plausible, mais probable que Éric Salvaire ait passé par le polygraphe. Ce qui veut dire qu'il y en a eu trois. Pourquoi trois? Est-ce que c'est sur trois événements? Il y en aurait échoué un concernant Donald Duguay, puis il y en aurait réussi deux, on aurait décidé de pas accuser. Écoutez, toutes les hypothèses sont logiques, parce mais c'est même... fort habile de l'avoir amené, moi je vous dis. C'est fort habile de l'avoir amené parce que ça démontre qu'on est prêt à crier notre innocence dès le départ.
Exact, mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est les policiers qui font passer le polygraphe qui peuvent même décider si oui ou non c'est assez concluant pour aller plus loin?
Ben, pour aller plus loin, c'est le procureur de la Couronne qui va décider.
Okay. Puis des fois, le procureur, lui, est-ce qu'il peut tenir en compte de ça? Ben, si c'est pas admissible en cours, tenir en compte les résultats du polygraphe avant de...
Je pense très, très certainement, je vous dis pas que c'est le cas d'Éric Salvaille, mais dans certains cas que moi-même j'ai vécu, le passage du polygraphe, on l'a su postérieurement, parce qu'habituellement, on conseille jamais à nos clients d'aller là. Parce que moi-même, je passerais le polygraphe sur un événement dont j'ai aucun lien, et j'aurais une certaine nervosité qui pourrait se traduire par 10% d'échec. Donc, une chance sur 10, en fait, selon les statistiques, que je puisse échouer le polygraphe. Donc, on le suggère plus ou moins à nos clients, mais j'ai vu des dossiers où le client avait passé le polygraphe et on se fait dire postérieurement que l'individu n'a pas été accusé et ça a entré en ligne de compte qu'on fasse passer le polygraphe. De ce que je sais, par contre, de mon expérience, quand on utilise le polygraphe, c'est parce qu'on a de la difficulté à corroborer notre preuve. Qu'est-ce que la corroboration? C'est des éléments supplémentaires de preuve qui viennent appuyer le témoignage d'une présumée victime qui fait en sorte que vous devez vous défendre vers toutes sortes de preuves corrélatives, alors que quand vous avez un simple et unique témoignage, ça devient ce que j'ai mentionné tout à l'heure du 1 pour 1.
Avant qu'on se quitte rapidement, peut-être revenir un peu sur le cas de Karl-Emmanuel Villeneuve, qui est revenu dans l'actualité de manière un peu surprenante, parce que ce qu'on a su du côté des médias et du public, c'est que l'individu s'était, disons, désorganisé à nouveau. Pas une première fois, pas une deuxième, une troisième fois, je crois. Ce qui met en suspens toute l'évolution du processus juridique à son endroit. On vous rappelle que ce gars-là est accusé, entre autres, d'avoir abattu un autre individu. On parle d'un jeune homme désorganisé trois fois, assez qu'on ne peut pas mettre en marche le système judiciaire. J'ai lu des commentaires de gens qui disent « Ah, ce gars-là doit faker, il doit mimer la dérape mentale. » Possible ou pas?
Moi, de l'expérience régionale et même provinciale que j'ai, lorsqu'un psychiatre se prononce en ce sens, gagé pour le psychiatre.
Ouais.
Parce que c'est terriblement coûteux, sérieux, prenant de s'engager avec ce qu'on appelle des sujets judiciarisés. Donc, on ne fait pas ça pour le plaisir de la chose. Et les psychiatres en ont vu d'autres. À toutes les semaines, vous avez un cocktail d'accusés qui défilent devant ce qu'on appelle le D8 et les examens en responsabilité criminelle et en aptitude. L'aptitude, c'est encore, je vous dirais, plus facile pour un psychiatre à détecter.
Ouais, c'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'avec Turcotte, on a beaucoup parlé...
L'aptitude à comparaître, c'est au moment où vous comparaissez devant M. le juge. Ça veut dire c'est maintenant. Est-ce que vous avez l'aptitude de comprendre ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en état de collaborer avec votre avocat et la justice pour que votre dossier puisse avancer?
Et ça prend pas grand-chose, ça, là. Corrigez-moi, mais je veux dire... Faut que l'état mental soit quand même assez grave pour pas être apte à comparer.
Il faut que ça soit sérieusement atteint. Là.
OK.
OK? L'aptitude et la responsabilité criminelle, l'article 672.11, paragraphe B, l'autre étant le paragraphe A. Paragraphe B, c'est est-ce qu'au moment des infractions, vous étiez atteint d'une maladie mentale en vertu de l'article 16 du Code criminel qui fait en sorte que votre responsabilité criminelle ne pouvait être engagée. Donc, il y a une différence notable entre les deux. Il y en a un qui c'est sur le moment précis, sur l'aptitude à collaborer avec la justice, alors que le deuxième volet, c'est au moment de la commission des infractions.
Mais on fait quoi maintenant? Est-ce que...
On attend. Là, on a fixé un délai.
Ça se peut-tu qu'il soit jamais jugé si ça se corrige jamais?
Mais dans l'intervalle, il va certainement y avoir des médecins qui vont se pencher sur le sujet. Il y a des procédures qui sont prévues en ce sens. Puis, advenant le cas que l'individu récupère et qu'il devient apte à comparaître, bon, il va y avoir à ce moment-là un renouvellement du dossier ou une réactivation du dossier. Mais c'est assez particulier, je ne vous le cache pas, mais l'histoire de feindre ou de faker, dans mon livre à moi, c'est peu probable.
Suffit pas de prendre un stylo puis se dessiner à la face, là.
Non, puis ça non plus. Écoutez, les psychiatres en ont vu d'autres, puis souvent on voit des individus qui vont défiler devant le tribunal, qu'on est convaincu que les individus ont pas toutes les capacités, qui ont même certains segments de non-responsabilité. Ils nous reviennent, là, les psychiatres, avec des rapports de très, très, très étoffés, nous disent que les individus sont soit responsables, soit capables de collaborer avec la justice. Donc, on n'en passera pas beaucoup à ces gens très, très, très qualifiés que sont les experts en psychiatrie.
Maître Quentin, merci beaucoup.
Merci.
Un plaisir, les gars.
Bonne fin de semaine.